et bienvenue à Je veux au ciné, tous les lundis à 14h. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine, c'est toi qui vas nous faire la première chronique.
Bonjour Seb. Oui Seb.
Après nous avons Eric.
Bonjour Sébastien.
Le nouveau venu de l'équipe.
Bonjour Eric.
Bonjour Antoine. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Tu fais partie de l'équipe des deux larrons qui sont avec nous. Il y a aussi
Sylvia.
Mika.
Bah, avec Mika, ça fait trois larrons.
Voilà, les deux autres larrons.
Bonjour Mika.
Bonjour Mika.
Bonjour.
Vous faites tous les trois une émission qui est maintenant sur Studio Zef.
Critique-moi si tu peux, tous les dimanches à 13h.
J'ai la petite sœur de Je vais au ciné.
Ouais. Oh, c'est autre chose, vous faites
c'est
de la critique. Vous faites de la critique de.
On décortique un film pendant une demi-heure.
Oui, alors que nous, on en critique plein pendant une demi-heure.
Ouais, rapidement, nous on rentre rapidement. Dans les détails. Nous...
on commence par toi, Antoine.
Allez-y, allons-y.
Bon, alors ma petite surprise, comme d'habitude.
À la rigueur, je suis OK pour qu'elle gagne plus que moi, comme ça j'ai pas besoin de bosser.
Ah, ça c'est Aurel.
Putain, mais je suis grave féministe en fait.
C'est surtout grave un branleur, ouais.
Donc tu vas nous parler de féministe, c'est ça?
Oui.
Ou même plutôt de Britpop.
Bon, t'as foiré le lancement, mais c'est vrai. Ah, les années 90, quel pied. J'étais ado, les femmes se mettaient nues sur la plage. Enfin non, se mettaient les seins nus sur la plage.
Je découvrais... Elles pouvaient se mettre nues tout court sur la plage.
Mais non, pas là où j'allais. Je découvrais Polanski et j'écoutais Noir Désir. La belle vie, en somme.
Je suis pas sûr.
Je ne parle pas du département.
Je me retire de ce podcast.
Des années plus tard, mes idoles sont devenues soit des meurtriers, soit des violeurs. Le réveil est douloureux et me fait me poser pas mal de questions sur mes goûts. Le cinéma que j'aime tant se trouve être accusé par tous les mots actuels se finissant en isme, sexisme, racisme ou encore homophobisme. Depuis que j'ai pris conscience de ça, je suis devenu beaucoup moins vindicatif par rapport aux supporters de foot. C'est triste à dire, mais entre le cinéma et le foot, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. L'ouverture d'esprit prend cher. Une fois de plus, je ne parle pas du département. Attends la chute.
Et les amateurs de jeux de mots se régalent.
Ah oui.
Comme dit la très talentueuse Virginie Despentes, dans un entretien qu'elle a accordé au podcast Les couilles sur la table, d'un point de vue du genre et de la race, le cinéma, c'est le triangle du mal absolu. Pour moi, qui suis un modèle de modération, au début, ce genre de propos me semblait un peu excessif et un réflexe pavlovien me poussait à contredire tout ce genre de propos avec un argument avec des arguments tels que celui qui dit qui est ou alors miroir magique qui reflète tout. Le mouvement MeToo m'a fait prendre conscience de cet état de fait. Il est toujours possible de trouver des œuvres démontant ces propos, mais elles font bien pâle figure face à l'armada de films qui vont dans le sens des dires de Madame Despentes. C'est vrai qu'entre ma vision du cinéma et la réalité, c'est de plus en plus, l'écart se creuse. Je ne parle toujours pas du département.
Mais qu'est-ce qu'on se marne avec toi ?
Sache, Mika, sache que je ne suis pas homme à qui l'on dicte sa conduite. Ça tombe bien que tu prennes la parole. Les auditeurs ne te connaissent qu'à travers tes chroniques et soyons honnêtes, elles ne te rendent pas toujours justice.
Elles sont musicales surtout, ces chroniques.
À la bibliothèque de la radio, alors que tu faisais des recherches sur un sombre compositeur allemand ayant fui le régime communiste 10 ans après la chute du mur, avec la finesse qui te caractérise tant, tu me tiens ce propos. De toute façon, le cinéma, c'est de la merde. Ce que je préfère avant tout, c'est la littérature. Je ne m'y connais pas sans littérature, mais il me semble que s'il y a plus d'auteurs femmes que de réalisatrices, ce n'est pas pour autant que la condition féminine y est mieux traitée. J'ai l'impression que de l'Odyssée d'Homère à Michel Houellebecq, il y a aussi beaucoup à dire ici. Enfin bon, revenons à nos moutons. Si depuis toujours on a séparé le blockbuster du film d'auteur, sur la question de la pertinence des rôles féminins, on peut tous les mettre dans le même panier. Une fois de plus, il est plus facile de montrer du doigt Michael Bay, mais il ne faudrait pas oublier pour autant M. Scorsese ou M. Kubrick, où dans leurs films, les rôles de femmes sont souvent réduits à peau de chagrin.
C'est en train doucement de changer, ça.
Tu es naïf, mon loulou. Enfin, franchement, je ne sais pas. Comment déceler l'opportunisme d'une réelle volonté de changement? Hollywood, ne sachant plus quoi faire pour nous vendre les mêmes daubes, a inventé dernièrement le female reboot. Bon, je suis désolé pour l'anglicisme, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent français. Les studios sont persuadés de faire du féminisme en remplaçant les personnages masculins par des personnages féminins. Bon, pourquoi pas, après tout. De Ghostbusters au dernier Terminator, en passant par Ocean 8, régulièrement, ce genre de produit sort dans les salles. Je ne les ai pas vus, je ne jugerai pas de leur qualité intrinsèque. Mais perso, je vois plus d'opportunisme qu'autre chose. Je ne connais qu'un exemple de female reboot digne de ce nom et qui, dès sa sortie en 2015, soit devenu pas moins que le meilleur film de tous les temps.
Ne dis rien, je vais deviner par moi-même. Fast and Furious. 7. C'est vrai qu'ils en ont fait 7 de ces trucs.
Mika, si bien souvent tes propos par leur limpidité et leur clarté sont au-dessus des nôtres, avec cette intervention, je peux clairement dire que tu es au fond du trou. Tout n'est pas négatif. Il y a quelques années, étaient sortis 3 sagas qui présentaient des personnages féminins forts, Harry Potter, Twilight et Hunger Games. Est-ce que ces films sont féministes ? Honnêtement, j'en sais rien. Et pour être honnête, d'après ma femme, le féminisme et moi, ça fait 2. Mais en attendant, j'aimerais croire que les générations qui ont grandi avec, enfin pour les générations qui ont grandi avec, il en restera toujours quelque chose. Après, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la choucroute, mais avec le recul, on peut constater, en tout cas pour Hunger Games et Harry Potter, que la carrière des actrices s'est beaucoup mieux développée que celle de leurs homologues masculins.
Mustang ?
Non, Mika, essaye encore. Alors, de nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'il n'y a pas assez de femmes réalisatrices. Alors là, moi je dis, n'allons pas trop vite en besogne. Parce que si c'est pour avoir plus de Catherine Bigelow, je dis oui. Mais alors si c'est pour avoir plus de Sofia Coppola, alors là, je dis non.
Marguerite ?
Mika ? Je te sens de moins en moins inspiré. Tu sais que tu n'es pas obligé d'intervenir. En plus, j'ai vraiment l'impression que tu essaies de placer des films où les femmes ont des rôles forts juste pour contredire mes propos. Je trouve que c'est moche ce que tu fais. Est-ce que moi, je viens pourrir tes chroniques ?
Oui.
Oui, je confirme, je suis témoin.
Alors, si on élargit un peu le débat, et pour que le cinéma populaire français sorte du triangle du mal absolu, il faudrait vraiment qu'il soit représentatif de la société civile qu'il représente et qu'il évite les pires clichés du moment. Non, nous n'habitons pas tous dans des grandes maisons bourgeoises. Oui, les Noirs et les Arabes peuvent vivre ailleurs que dans des cités, et eux aussi, à la naissance, ont reçu la compétence de faire des phrases avec plus de 3 mots. Et non, le talent d'une femme ne tient pas à son facteur BACM. À mes yeux, les seuls cinéastes populaires qui montrent la richesse de la société française sont Nakache et Toledano, dont leur dernier film hors norme est une petite pépite qu'il faut aller voir. Mais revoyez aussi Le Sens de la Fête, qui décrit une micro-société comme j'aimerais en voir plus souvent dans ce genre de cinéma, et où les personnages existent en tant que tels et pas pour ce qu'ils représentent.
Mad Max Fury Road ?
Bien, Mika. Mais je sais que tu n'as pas vu ce film-là au cinéma, donc pour te faire pardonner, tu regarderas toute la filmographie de Sofia Coppola.
J'ai déjà commencé.
Eh ben, bon courage.
Eh ben, merci Antoine. Et puis, on va enchaîner avec le thème de Mission Impossible, parce que je trouvais que c'était un peu une mission impossible de faire le féminisme avec Antoine.
Oui, moi j'en ai...
On est de retour.
Non, ouais. Non, non. Comme... Va voir Polanski, tu verras, il est bien.
Ah bon, t'es sûr?
C'est moche de conclure une chronique féministe après, avec ça, hein, quand même. Hein.
C'est Antoine, tu t'attendais à quoi?
Bah oui.
Par miracle.
Attendez, quand
ouais.
On parle,
quand on mais au fait, on a, mais au fait, puisque tu n'as pas développé, qu'est-ce donc BACM?
Le facteur BAC...
Hein?
De quoi?
Bitocumétable.
D'accord.
Ok. J'aurais pas dû poser la question en
non,
fait.
Non, moi non plus. Je voulais pas savoir en fait. Donc,
bah, on... vas-y.
On enchaîne.
On enchaîne. Avec... On s'emboîte.
Transition. Avec Eric.
Transition. Je crie ton nom.
C'est ça.
On enchaîne avec Eric.
Qui va tenter de répondre à une question universelle. Est-ce qu'on peut faire un film avec une publicité d'une heure trente?
Ah, mais attends, avant, j'ai une petite surprise pour toi. Oui, c'est ça.
Je te rappelle que c'est un jouet.
Nous, on sait, mais pas eux.
Et ah, donc, tu connais pas la référence?
Non.
T'as pas la référence?
Remets le son.
Tu veux que je le repasse?
Bon, c'est pas bien long.
Non. S'il veut repasser. C'est... Le problème, c'est si ça va repasser.
Je te rappelle que c'est un jouet.
Nous, on sait, mais pas eux.
Je te rappelle...
T'as pas,
les
t'as
voix
pas
je les connais mais...
Pour 100 briques t'as plus rien. Ou ils essaient de braquer et à un moment ils lancent une grenade, baissent une fausse grenade et...
Non, mais c'est qui les acteurs?
Je suis nul en acteur moi, ah. J'ai aucune mémoire des noms, c'est une horreur. Donc Eric, tu vas faire une grande pub de... des films qui font de la pub.
Une grande pub, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un scénario quand on fait une pub commerciale pour des jouets? Pour ça, on va parler de plusieurs films. Donc globalement, c'est Lego qui a lancé, qui a mis le pied dedans avec Lego La Grande Aventure, sorti en 2014. On va également parler aussi un petit peu de Lego Batman, Lego L'Aventure, deuxième partie. Et pour finir, Playmobil.
Ça y est, j'ai compris, pour 100 briques, t'as plus rien.
Ah, voilà.
Alors, le premier film sorti en 2014, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, qu'on a déjà trouvé sur le film Tempête de boulettes géantes, où ils étaient à la fois réalisateurs et scénaristes. Qui vont également travailler sur Lego Batman en tant que scénariste, Lego Movie 2 en tant que scénariste, et Playmobil, c'est un petit nouveau, Lino Di Salvo, qui était recruté de chez Disney, puisqu'il a bossé sur La Reine des Neiges pour concurrencer les films Lego. Alors.
Super, on sent qu'il y a du niveau.
Il y a du niveau, ouais. Il y a du niveau sur la table. C'est vrai qu'en 2014, donc, il y a Lego qui sort au cinéma un film, personne ne l'a attendu, tout le monde se disait « oui, ça va être une publicité avec un scénario qui ne tient pas grand-chose », mais en fait non, Lego le film, ça apporte beaucoup de choses. Ce n'est pas la première expérience vidéo audiovisuelle pardon, de Lego puisqu'ils ont eu un grand passé dans le milieu du jeu vidéo, avec la particularité de ne jamais embaucher d'acteurs parce que ça coûte trop cher.
Oui, qui font
« voilà, globalement, mais ça leur donne un passif dans le comique de situation en fait, d'absurde et de décalage, ils jouent à fond là-dessus, et ce qu'on retrouve en partie hein, dans le film. Donc Lego Movie, c'est l'histoire d'Emmett, un gars lambda qui ne sait pas du tout créer quoi que ce soit, il suit les instructions à la lettre que lui donne l'univers dans lequel il évolue, contrôlé par Lord Business. Un financier à la tête des médias, qui a le pouvoir, l'exécutif, les médias, l'énergie et tout, donc il contrôle un peu tout dans la ville. Et une révolution se met en marche, incarnée par Kultag, une héroïne à la tête de la rébellion, qui fait partie de la grande équipe des maîtres constructeurs. Alors, le film, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, c'est que ça représente à fond le produit d'où ça vient. C'est Lego, c'est un objet créatif et culturel, on peut faire tout ce qu'on veut avec du Lego. Cet esprit-là, on le retrouve à 100% dans le film. C'est pas juste une pub d'une heure et demie, par rapport à ça, le film, il apporte beaucoup de choses. Ne serait-ce que déjà le style graphique, on est sur l'animation, c'est de la fausse stop motion. Stop motion, qu'est-ce que c'est? C'est de l'animation image par image. On prend un cliché, on bouge les personnages de quelques centimètres, on reprend un cliché, ainsi de suite. Technique qu'on peut trouver par exemple dans Wallace et Gromit ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Sauf que là, c'est à la sauce. C'est un gros clin d'œil à la communauté de fans, puisque le Lego est un terreau très fertile pour les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc la fake stop motion, en fait, c'est, y a aucune brique existante, à part les scènes en prise réelle à certains passages du film. Tout est fait par ordinateur. Et c'est vraiment pas mal du tout par rapport à ça. Au niveau du visuel, les briques ne sont pas neuves du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un travail en CGI sur les pièces pour qu'elles aient l'air abîmées, pour qu'on voit les traces de doigts, le poussière, les ratures, les rayages. Il y a un gros travail là-dessus, franchement, au niveau visuel, c'est génial. Au niveau du scénario, il y a une double lecture. Ça, c'est vraiment, il y en a pour les petits comme pour les grands. Le film a vraiment été distribué pour un film pour enfants, mais quand on regarde de plus près, on sent qu'il y a vraiment un message en arrière-plan pour les plus grands. Il y a une petite critique de la télévision, par exemple, je vais prendre une réplique qu'on peut attendre à la fin du film. Donc c'est l'héroïne Kulta qui adresse un message à tout l'univers Lego. Oui, il faut rester debout, il faut lutter contre l'ordre business. Et grosso modo, elle dit bon, bah, je passe à la télé, vous pouvez me faire confiance, ce que je dis, c'est forcément vrai. des petits messages comme ça, t'en as quelques-uns dans le film, c'est assez rigolo. Ce que j'aime aussi dans le Lego, c'est le côté absurde. Moi, je suis client à chaque fois des situations complètement débiles qui. Bon, par exemple, t'as tout un discours solennel d'Emmett. À un moment, il va dans le QG des maîtres constructeurs pour essayer de les convaincre de soutenir son projet pour casser les fesses à leur business. Et puis il dit « Oui, je suis peut-être pas le plus intelligent, je sais pas construire et tout ça. Et vous vous dites sûrement que je suis la pire personne pour la situation. Et vous avez tout à fait raison. » À chaque fois, on te prend par la main et puis on t'emmène ailleurs. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il puise à fond dans l'expérience Lego que tu as pu avoir quand tu étais petit il y a une quinzaine d'années. Par exemple, tu as un personnage, c'est le cosmonaute des années 80, qui bon, c'est complètement tiré d'une licence des années 80, c'était les explorateurs de la Lune. Et à l'époque, tu avais un casque que tu mettais sur le personnage. Ce casque-là avait le problème d'être très fragile. Et globalement, les enfants, ils finissaient toujours par le casser, ce casque. Et le personnage, quand tu le vois pour la première fois, tu vois que son casque, il est déjà fendu, en fait. Et ses traces, elles sont effacées exactement comme le super t-shirt que je porte aujourd'hui.
Ce qui est très radiophonique.
Oui, on le voit très bien.
Exactement. J'insiste à fond. Merci, Mick.
Je soutiens... Je dis quoi ?
Vas-y, Antoine. au niveau créatif aussi, depuis quelques années, Lego ils sortent des personnages qui ont deux visages en fait, deux expressions de visage. Donc t'as un côté par exemple, il va être content, et puis l'autre côté il va être énervé. Et bah ça, ils le réutilisent dans le film. T'as un personnage, c'est le policier, donc c'est le flic, il incarne tous les clichés du flic. Puis t'as Emmett qui se retrouve dans le commissariat et il est interrogé par le mauvais flic justement. Il lui gueule dessus, oui, est-ce que t'as la pièce de résistance pour mettre à mal la prophétie et virer l'ordre business de son trône et tout. Et il lui pose plein de questions, il dit mais pourquoi je suis avec le mauvais flic? D'habitude dans les commissariats, il y a toujours un bon flic. Et là tu vois la tête du personnage qui se retourne et t'as le côté oui, c'est moi, je suis le gentil flic et tout. Et c'est juste une pièce, et ils arrivent à en faire un aspect créatif dans le film. Je trouve ça vraiment intelligent de leur part. Des trucs comme ça, t'en as à l'appel par la suite, t'as le personnage en question, le personnage du flic, il fait pas assez bien le boulot, donc t'as l'ordre business qui vient l'engueuler. Et puis ils utilisent du dissolvant en fait. Il lui bloque sa tête sur le côté gentil, il lui passe du dissolvant dessus et il passe en côté méchant pendant tout le reste du film. T'as un côté vraiment de développement du personnage, c'est qui m'a beaucoup plu. Après, on a Lego Batman, je suis un peu moins fan. J'ai eu un petit souci avec Lego Batman parce que pour moi, c'est pas un film Lego, c'est un film Warner en fait. Ouais. Tu le sens trop, pour moi, il y a trop de références à trop. Le côté Lego n'a plus tellement sa place. Très méta aussi. Il y a énormément de références aux anciens films Batman qui ont lieu avant. Donc si tu veux 5 minutes au début du film, c'est rigolo. Mais que ce soit ressassé assez souvent dans le film, ça m'a pas trop...
C'est plus pour les fans de Batman que pour les
fans pense, de... ouais. Je pense que c'est un film Batman avant d'être un film Lego.
Enfin, les fans de Playmobil.
On y arrive après, Antoine. Garde ta joie pour après. Je te sens... parce que l'histoire dans Lego Batman, elle est d'un classique aussi, c'est pas forcément très constructif.
Est-ce qu'il pleut? Parce qu'un bon Batman et un Batman.
Un bon Batman, ouais, il pleut, ouais.
Il faut qu'il pleuve.
Il faut qu'il pleuve, c'est une obligation. Sinon, il a pas la classe, Batman.
C'est ça, ouais. Sinon, c'est un sous-Batman.
Alors, c'est très sombre, c'est très noir, avec quelques pièces gris foncé, mais sinon, non.
Moi, je veux de la pluie, c'est pas un vrai Batman.
Ouais, et puis comme dans Spider-Man, il faut un baiser, quoi. C'est Spider-Man, c'est le baiser, Batman, c'est la pluie. Quoi.
C'est ça.
Il y a des passages où le personnage de Batman, ils en font absolument ce qu'ils veulent dans le film. Il y a des passages rigolos, mais sur la longueur, je trouve qu'on perd le côté créatif qu'on avait dans le premier film. Ensuite, on a Lego Movie 2, qui est sorti, alors si je dis pas de bêtises,
il n'y a pas longtemps.
Février 2019, tout à fait. Alors heureusement, au scénario, on retrouve les mêmes gars que pour le premier film, mais à la réalisation, on a Mike Mitchell qui a eu la joie de travailler sur Shrek 4, Alvin et les Chipmunks 3 et les Trolls.
Ouais, tu dis ça avec un petit air, c'est de la merde ces films, attention.
Ouais,
tu respectes,
c'est pas les meilleurs. Hein.
Tu respectes.
Quand t'arrives à la troisième épisode d'une série, excuse-moi.
Bah, déjà, Shrek 4.
Voilà. Mais j'insiste, il l'a juste réalisé pour le scénario.
Ouais, mais même Alvin et Chipmunks, déjà, rien que le premier.
Ouais, mais on n'est pas le public.
Mais après, le troisième, t'en peux plus, quoi.
Donc le deuxième film, c'est la suite directe du premier, parce que
ça se tient.
Ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la fin du premier, c'est tout de suite le début du deuxième.
D'accord.
Tu ne tiens pas forcément dans tous les films.
Non, non. Des fois, le deuxième, c'est le premier d'avant.
Oui, c'est le reboot, c'est la partie d'avant.
C'est ça.
On se donne un bout de reboot.
On se donne que les gamins sont nuls en maths.
Parce que le premier film se terminait juste sur une blague, en fait. C'était dans l'univers Lego, t'as des gammes, et par exemple, t'as la gamme Duplo, c'est plutôt pour les enfants de 2 à 5 ans, on va dire. Donc à la fin du film, dans l'univers, t'as des Duplo qui arrivent dans un vaisseau spatial, ils débarquent et « Oui, bonjour, on est les Duplo et on vient tout casser !»
Le film finissait là. Ces films-là, tu peux les regarder, tu les regardes avec un premier degré ou c'est du second degré tout le temps, en fait. Enfin,
il y a beaucoup de second degré, il y a pas mal de références, elles sont pas pour les enfants.
Si t'as pas l'habitude de cet univers-là, tu peux regarder ça.
Il y a quelques blagues à côté tellement... desquelles tu vas passer à côté,
que tu passes tous les films, tu passes à côté. Oui. Mais est-ce que si t'es pas dans l'univers, tu passes à côté?
T'as pas besoin d'être
tout,
fan de Lego pour regarder les films là-dessus, y a pas de souci.
Je vais rebondir sur ton idée parce que je suis pas un grand amateur de Lego. J'ai vu le premier Lego Movie. Et franchement, ça fait partie des films que t'as pas envie de voir. Et puis qu'au bout d'un moment, on te dit ouais, c'est
une
bien,
grande surprise
vas-y,
pour beaucoup de
nanana,
monde.
En fait, c'est bien, machin et tout ça. Et je l'ai regardé. Et effectivement, c'est une excellente surprise. Le second degré fonctionne à fond. Et l'écriture est très intelligente pour un truc, pour un film entre guillemets. Bassement mercantile qui parle de jouets.
Non, il n'y a plus mobile pour ça, t'inquiète.
Oui, voilà. Franchement, c'est super bien écrit, c'est intelligent. Il y a plusieurs niveaux de lecture, comme tu l'as indiqué. Il y a des petites critiques aussi qui fait que, franchement, ce film-là, il est vraiment super réussi. Et là-dessus est arrivé Lego Batman qui conclut, parce que les autres, je ne les ai pas vus. Les autres films dont tu vas parler, Lego Batman, je l'ai vu. Et en fait, ce film, c'est 1h30 de prétexte méta. Mais
ouais,
le problème,
voilà,
c'est que quand tu désamorces une situation sous prétexte méta, parce que Batman, il doit être comme ça, donc on fait ça, tu te moques d'un fait, mais tu le fais quand même. Donc au final, est-ce que c'est vraiment prendre de la distance par rapport à une gimmick particulière du personnage,
j'ai
de
pas
le dénoncer?
Qu'il y ait beaucoup de prise de risque dans Lego Batman.
Il n'y en a aucune. Il se contente de donner des airs méta à l'image qu'on se fait de Batman. Et pour moi, ça ne suffit pas à faire un bon film.
Pour moi, c'est une blague. Hey, regarde, t'as bien rigolé. Enfin, ça ne va pas
exact.
Au-delà du truc, je trouve.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
On va peut-être essayer de le laisser finir. Ça serait bien.
Non, mais c'est pas bien là. Donc le deuxième, c'est fini. Donc il y a les Duplo qui débarquent et c'est la grosse catastrophe. Donc on apprend que par la suite, les personnages Duplo prennent le dessus sur la ville, ils cassent tout parce que dès qu'il y a un truc qui est joli à leurs yeux, ils viennent pour le casser en fait. Et on se retrouve dans une ville post-apocalyptique à peu près 4-5 ans plus tard. Et t'as tous les personnages sont devenus hyper sérieux. On a l'impression d'être dans Mad Max, hein, des fois.
D'accord.
Pour l'univers Lego, c'est rigolo.
C'est un post-apo, quoi.
Un post-apo à fond. Et là-dedans, t'as juste Emmett, le personnage principal, qui est juste tout le temps content, tout le temps. Il fait tout le temps la même chose tous les jours. C'est le gars lambda et il passe à côté de ça complètement. Et un jour, t'as un cosmonaute qui débarque parce qu'Emmett a eu la bonne idée de construire une maison colorée qui a attiré les aliens, encore une fois. Et l'astronaute, il débarque et il kidnappe. Donc la fine équipe qu'il y avait dans le premier film et qui se barre dans l'univers Duplo et Emmett part à sa poursuite pour les sauver. Et on apprend qu'il y a un mariage qui est en cours. Un mariage entre la reine aux mille visages et un des prétendants parmi les cinq qui ont été kidnappés, on ne sait pas encore qui. Il se trouve que ça sera Batman par la suite. encore du grand sérieux chez Lego, parce qu'on se retrouve dans une situation où t'as Batman qui a envie de se marier. Truc tout à fait cohérent avec le personnage. Le deuxième épisode, faut aimer un peu la musique, hein, parce que niveau comédie musicale, il y en a à peu près toutes les 10 minutes.
Ah oui, alors...
Le deuxième, c'est un trip particulier.
Oui, effectivement, c'est pas tu mon truc, moi. Non, mais c'est pas mon truc, moi, les comédies musicales, ça me saoule vite. En fait. Ouais, c'est ce qui me saoule le plus dans les Disney, en fait. En règle générale, quand ça chante trop, non, j'en ai marre.
Bon, bah, il est pas pour toi, c'est au niveau du film, pour le résumer un peu, moi, je trouve, on perd un peu en créativité, mais on garde le même niveau d'absurde que dans le premier, donc moi, je m'y retrouve complètement. Ce que j'ai trouvé un peu con aussi, c'est dans le film, à un moment, t'as... Parce que c'est un univers complètement rose, kawaii et tout. Et t'as une scène où ils veulent pas que Cool Tag se rebelle. Ils passent de la musique pop. Et c'est censé être une musique qui te reste dans la tête. Mais de toutes les musiques du film, c'est celle que tu oublies tout de suite.
D'accord.
C'est un peu raté de leur part. Et pour moi, la meilleure musique du film, en fait, c'est celle de la générique de fin.
C'est Hans Zimmer, non, qui l'a fait ?
Je ne saurais pas répondre à ta question, Antoine. Je pense que la réponse est non.
Non, j'avais regardé vite fait, c'était pas intime.
Il y a un gros travail qui a été fait sur le générique de fin dans le premier et dans le deuxième. C'est toutes les animations. T'as l'impression de voir des vraies pièces, mais c'est que des vraies pièces. Autant dans le film, c'est de la fausse stop motion, mais à la fin, c'est vraiment que des pièces. Et t'as l'esprit création en mouvement, le genre de choses que tu peux voir sur les expositions de Lego, par exemple. Celle dont j'ai fait partie, et pour moi, c'était le lien, et j'ai trouvé très évident par rapport à ça. Tu sens qu'il y a des clins d'œil à droite à gauche pour toute la communauté Lego. Là-dessus, c'est génial. Et le générique de fin, où la musique est déboîte. Et à côté de ça, il y a.
C'est pas une Zimmer, alors.
Non, c'est pas une Zimmer. À côté de ça, on a Playmobil qui, très dernièrement, puisque c'était cet été, le 7 août 2019, qui se dit ouais, il y a peut-être un filon à creuser là pour se faire du fric. Allez, on va faire un film. Pour moi, ouais, j'ai regardé, c'était la douche froide en fait. Il n'y a absolument aucune créativité dans le film. Autant dans l'univers Lego, c'est des personnages, ils sont dans leur propre univers et tu as une interaction avec le monde des humains. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour ceux qui n'auraient pas vu le film.
Un peu comme les Schtroumpfs, quoi. Dans les films Schtroumpfs qu'ils ont fait les Américains, les derniers qu'ils ont fait, c'est les Schtroumpfs qui vont dans le domaine des humains et pas les humains qui arrivent dans le domaine des Schtroumpfs. C'est les Schtroumpfs qui viennent à New York, quoi, globalement.
Et là, en fait, Playmobil, c'est deux humains qui rentrent dans l'univers Playmobil, tout simplement. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas beaucoup de cohérence, parce qu'autant dans Lego, les personnages, ils se déplacent exactement comme des Lego. Si tu veux, leurs jambes, elles sont droites, et pendant tout le film, leurs jambes, elles vont rester droites. Et les bras, ils vont pas commencer à clapper, ils vont taper des mains. Les Lego, ils sont pas faits pour ça, donc ils vont toujours se déplacer comme des Lego. La cohérence dans les films Lego, elle est là. Dans le film Playmobil, donc au début, t'as une vanne qui dure 2 minutes, parce que ce sont des humains qui rentrent dans le monde des Playmobil. Donc au début, ils se déplacent comme des Playmobil, et ils se cassent la figure au bout de 2 minutes, parce qu'ils savent pas se déplacer. Et 2 minutes après, ça y est, ils peuvent plier les bras, ils peuvent plier les jambes.
Ouais, après, c'est vachement rigide, un Playmobil.
Oui, c'est un peu... Mais après, les Lego aussi, c'est assez rigide, sauf que...
Sauf que dans le film Lego, ils sautent tout le temps, il y a beaucoup plus d'expression.
Oui, et puis l'avantage aussi des Lego, c'est que ça a plus de vie, en fait, un Lego qu'un Playmobil. C'est très raide, un Playmobil.
Je croyais qu'on devait le laisser finir.
Oui,
c'est un peu raté. On va
parler de cinéma.
Dans le film Lego, j'ai trouvé ça très drôle. C'était plein de blagues à tous les niveaux. Le film Playmobil, je me suis ennuyé. J'ai pari une seule fois. C'est juste un film d'action en fait. T'as des personnages qui ont un but à suivre. Bah, en gros, c'est un fils, un garçon et sa sœur qui sont dans l'univers des Playmobil. Le garçon se retrouve kidnappé, donc sa sœur vient pour le sauver. Mais à part ça, bah, le scénario il développe pas quoi. À chaque fois, tu as des personnages qui arrivent. Oh, bah, je viens là pour t'aider, on va faire la route ensemble et tout, alors qu'ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et puis là, il y a trop de chansons dans ce film, c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, c'est vraiment des chansons à la Disney, c'est le truc qui m'horripile. Le film, tu sens qu'il a été vendu pour des enfants entre 5 et 8 ans et ça s'arrête là. Quoi. Il n'est pas fait pour les adultes dans les films Lego, ils peuvent avoir un deuxième niveau de lecture, il y a plein de blagues qui sont faites pour eux.
Non, mais après.
Mais là, franchement, Playmobil, j'ai vraiment eu l'impression de voir une publicité pendant 1h30 pour des produits qu'ils vont vendre à la fin de l'année. Quoi.
Ça revient un peu aux anciens Disney où il n'y a pas de deuxième lecture, où c'était très pour les enfants et rien de plus.
Ouais, mais Disney, ils peuvent avoir l'excuse qu'eux, ils pompent dans l'univers des contes.
Oui, et puis depuis, ils ont un peu changé quand même.
Ouais.
Petit peu, pas bon. Ça dépend quoi.
Ouais. Et au-delà du scénario et des personnages, l'animation, bah, franchement, elle est pas folle du tout. C'est un entre-deux entre les personnages Playmobil et des personnages humains. C'est un mix des deux qui est un peu bancal. Je l'ai pas trouvé vraiment génial. T'as pas mal d'ennemis, de méchants dans le film qui ont été inventés et qui ressemblent pas du tout à l'univers Playmobil. Je sais pas d'où ils sortent. T'as l'impression de voir des aliens. Je sais pas comment ils s'appellent dans Star Wars, l'espèce de gros machin gélatineux vert là.
Je sais pas.
Je connais bouffe tout, mais.
Non.
Machin gélatineux vert.
Dans Star Wars, c'est
Yoda plutôt.
Non, un truc immense. Qui a plein d'esclaves et tout. T'as un personnage qui ressemble à ça. T'as un personnage qui ressemble à ça dans Playmobil. Et à ma connaissance, il n'y a aucun personnage comme ça.
Je le vois, mais son nom.
Dans le Retour le Jedi, ouais. Là.
Oui, voilà.
Espèce de gros verre, là.
Oui, voilà.
Jabba le Hutt.
Merci.
Voilà. Merci, Antoine.
Spécialiste Star Wars.
À 16 heures perdues.
On a peut-être trouvé une nouvelle étiquette.
Oh, bah putain, si c'est celle-là que vous me collez.
Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça, c'est un enchaînement bancal de situations vues et revues. Et grosse déception.
Ok.
Tout ça pour dire que Lego, c'est.
Lego, les premiers étaient bien, et c'est après que ça a merdouillé.
Voilà. Et je précise que je n'ai pas tenu à m'infliger le film Lego Ninjago, dont ça pourra peut-être nous dire et nous faire une résumé en 3 ou 4 mois.
Alors, très, très rapidement, moi je l'ai vaguement vu. Parce que c'était pour mon petit cousin et j'étais chez un ami.
Oh, l'excuse.
Et donc, on discutait et je regardais d'un œil distrait. Et à des moments, je trouvais ça même chiant en regardant juste 2 minutes. Quoi. Donc, c'est de l'action. Globalement, c'est de l'action. C'est des ninjas en Lego qui se tapent dessus, qui sautent, qui. Aucun intérêt. On va enchaîner sur une musique et puis on fera peut-être une.
Everything is awesome. Juste faire un tout petit point pour te rassurer sur Playmobil. Playmobil, si j'en crois ce que je lis, a eu comme recette dans le monde à peine au-dessus de 8 millions.
Ah oui, donc c'est un bide.
D'accord. Autant dire la grosse blague. Oh.
Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est un film français distribué par Pathé, ça joue peut-être.
Ah, ça aide pas. On va écouter Who's the Batman, qui est dans la BO du film Lego Batman de Patrick Stomb.
Batman.
voici, on fait un rapide retour. Je pense qu'on va pas avoir le temps de parler d'un film, mais au moins de se dire au revoir gentiment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
J'aurais bien voulu parler du Polanski, moi.
Non.
Ah, bon, la prochaine fois alors.
Ou pas.
C'est
pas une obligation, Polanski. Pourquoi, tu l'as vu ?
Non, je
n'ai
pas.
Ah, bon. Au moins comme ça, c'est réglé. On se dit au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine à 14h, lundi, même jour, même heure.
Au revoir.
Au revoir.
Bisous.